Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous parlerons aujourd'hui de Technopolis, une campagne coordonnée par la Quadrature du Net contre les technologies de surveillance. Luc nous dira pourquoi lui aime la Technopolis, et Laurent et Laurette nous parleront de DNS. Voilà le programme du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la liberté informatique, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Bonu, chargé d'affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour utile et nous poser toutes questions. Nous sommes le 27 avril, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick. Salut Patrick.
Oui, bonjour, bonne émission.
Et nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre », la nouvelle chronique proposée par Laurent et Laurette Costi. Après un premier épisode, pourtant, Laurent, quel était le sujet de premier épisode
C'était les adresses IP.
Les adresses IP, merci du rappel. Donc voici aujourd'hui l'épisode 2, les DNS. Laurent, à toi la parole.
Ou plutôt à Laurette d'ailleurs.
Allô, Papa Potam, c'est ta fille à quatre cœurs qui veut maîtriser les DNS car je soupçonne cet acronyme de recéler de terribles secrets.
Aïe, tu tombes mal, en fait je suis en direct d'une émission radio là. Attends, je demande à Étienne et puis à Patrick de mettre un interlude. En fait non, comme on va parler DNS et qu'on est plutôt raccord avec le thème de l'émission, on va en faire profiter les auditeurs.
T'es un papa malin en plus d'être un Papa Potam.
Oui, j'ai plusieurs casquettes et même un t-shirt de l'émission Libre à vous désormais. Bon, comme disait presque Madame de Lafayette, trêve de princesse, parlons DNS.
Oui, parlons du système de nom de domaine, ou plutôt, puisque j'excelle en anglais, Domain Name System, soit DNS.
On ne dit pas de gros mots à table, donc on ne dit pas j'excelle, mais plutôt je LibreOffice.
Bon, d'abord, on n'est pas à table, et si on avait le temps, on pourrait s'interroger sur le pourquoi de ton humour discutable. Un peu comme si t'avais subi un traumatisme plus jeune. Tu t'es battu à l'époque avec une imprimante ?
Non, c'était plutôt avec un logiciel propriétaire de comptabilité pour association. J'en suis encore tout retourné. Revenons au DNS. C'est le truc qui fait le lien entre des adresses IP, forme d'identité préférée pour les machines, et les noms de domaines plus intelligibles pour les humains.
Mais c'est pas un peu claqué ton bidule. Pendant des décennies, on retenait bien des numéros de téléphone.
Oh bon, c'était pour tester ta sagacité et ça marche. Le principal intérêt, en effet, c'est finalement de permettre de conserver une forme de stabilité du nom dans le temps, alors qu'une adresse IP peut changer. Par exemple, si tu changes de fournisseur d'accès à Internet, ton FAI.
Donc, si je comprends bien, le DNS, c'est une sorte de grande base de données, ou un bottin pour utiliser des mots de ton époque, dans lequel on trouve la correspondance entre une adresse IP unique et un nom de domaine.
Au moins, avec un bottin ou un annuaire, on pouvait démarrer un barbecue. Essaie de brûler un serveur qui contient une base de données, c'est pas gagné avec de silex. Sinon, c'est quand même une bonne analogie que celle de l'annuaire, mais quelques précisions sont nécessaires néanmoins. Il faut distinguer deux types d'annuaires, ceux qui font autorité et ceux intermédiaires que l'on appelle plutôt résolveurs DNS.
J'aurais tendance à penser que tu préfères les résolveurs car t'as un problème avec l'autorité.
Petite impertinente, je vais user de mon autorité pour t'envoyer au coin si tu continues. Mais en fait non, je préfère te gaver de connaissances à la place, et bing, un sale moteur de recherche dans ta face. Donc, alors que les serveurs faisant autorité contiennent en quelque sorte la vraie correspondance entre IP et nom de domaine, ils ne sont pratiquement jamais interrogés par les machines des utilisateurs, mais questionnés directement par les serveurs intermédiaires de l'autre catégorie, les résolveurs.
Mais pourquoi donc cette logique à deux étages, mon cher papa, même si je me demande si je préférerais pas aller directement au coin ?
En fait, les résolveurs servent uniquement de relais et de stockage temporaire de données pour faire gagner du temps, limiter le nombre d'échanges et éviter de saturer de requêtes les serveurs faisant autorité. Par exemple, ces résolveurs sont ceux des FAI ou ceux du service informatique d'une entreprise. Leur gestion est généralement privée et c'est aussi un nœud d'internet qui est une bonne cible lorsqu'on veut détourner ou masquer des résultats de requêtes.
C'est à cet endroit qu'on peut modifier le bottin et faire que l'utilisateur final n'arrive pas à l'endroit souhaité. Les serveurs faisant autorité, comme tu dis, seraient par exemple l'imprimerie qui produit les bottins et les bottins ainsi produits les résolveurs DNS. Et alors que j'aurais plus de mal à aller dans l'imprimerie et faire des modifications directement à la source, sur la rotative, je peux remplacer une page dans le boutin que je t'offre gracieusement. Et là, paf, t'arrives sur un site qui vend des toilettes connectées alors que tu voulais consulter caféprivé.fr.
Pas mal du tout cette analogie filée. Je me demande vraiment d'où te vient toute cette intelligence. J'aurais tendance à penser qu'elle vient plus de ton papa, mais je reconnais une légère subjectivité égocentrée.
Raconte-moi plutôt qui modifie les bottins et ce qu'il cherche à atteindre en faisant ça au lieu de t'auto-congratuler.
Ok, ok. Blague à part de Toto, donc, cette technique de réécriture de bottins est appelée filtrage ou censure, c'est selon. Si, si, allitération remarquable en reste, tu noteras. Bref, le filtrage DNS consiste donc à substituer aux réponses vraies des serveurs faisant autorité des mensonges pour empêcher un utilisateur de communiquer avec les serveurs du domaine filtré. C'est par exemple utilisé en entreprise pour empêcher les employés de regarder les pages Facebook.
Oh, mais je connais ça! C'est pour ça qu'on peut pas aller sur les sites de cul au lycée. Oh, tout s'explique à présent.
Oui, je serais curieux que tu essaies une recherche sur le mot cul-de-sac la prochaine fois au lycée. Mais au-delà du lycée, c'est aussi une technique utilisée par les États qui contraignent les FAI à faire mentir leur résolveur DNS pour que des sites appelant à la haine, par exemple, ne puissent pas être consultés.
Ouais, donc c'est quand même un peu une mesure cool, enfin, pour protéger les gens. Je pense surtout aux enfants, d'ailleurs. C'est plutôt pas mal, au final, non?
Ah, c'est là que ça se complique. D'abord, c'est toujours très délicat sur le plan des libertés que de décider pour les autres. C'est infantilisant, ça ne responsabilise pas. D'autant que consulter un site web ne veut pas dire cautionner son contenu. Et puis, on risque surtout l'over-censure. Tout ça sans réelle décision de justice. Avec parfois des blocages de contenu plus graves que de ne pas trouver la définition de cul-de-sac. Enfin, toutes ces manipulations sont toujours des occasions de collecter des données et de surveiller. Les FAI conservent sans doute l'historique de toutes nos connexions qui passent par leur résolveur DNS.
Mais s'ils les gardent, ils font quoi de toutes ces données? Je veux dire, des conserves à cornichons?
Oh, presque. L'historique de nos connexions, que les informaticiens appellent des logs, sont le socle de ce que l'on appelle le capitalisme de surveillance. Lorsque l'on surveille, on peut prédire les comportements. Lorsque l'on se sait surveiller, on modifie nos comportements. On alimente donc nous-mêmes la possibilité de manipuler et d'orienter le comportement des gens.
Mais alors, le plus simple, c'est de rester dans l'ignorance de ces pratiques. Autrement dit, on fait pas des pâtes à caisse pour chef de Schrödinger de ces questions et tout va bien. En disant ça, j'ai bien conscience que c'est à la fois intelligent et stupide.
Et tout est fait pour soi-disant faciliter la vie des gens et faire qu'ils se posent le moins de questions possibles. Si ça se trouve, la prochaine étape sera la suppression de l'école pour apprendre très tôt à ne plus réfléchir. Bon, mais en attendant, ces pratiques de filtrage sont des atteintes à la neutralité du net. On n'obtient plus les mêmes réponses à une requête quand on change de résolveur DNS.
Et après, il n'y a plus de limite au bord du sommet des abysses. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai pas encore choisi si j'avais envie de prendre en main ma destinée informatique ou d'ignorer tout ça en autodirigeant cette chronique à sa fin. Mais supposons un instant qu'on veuille ne pas ignorer, genre toi. Comment tu ferais à ma place pour avoir accès à la définition de cul-de-sac au lycée?
Bah, je demande à mamie son dictionnaire, tiens. Sinon, c'est une voie courageuse que tu choisirais là, petite padawan. Il n'y a pas de solution facile à mettre en œuvre. Elle nécessite souvent quelques connaissances techniques qui ne sont pas triviales. La première étape peut consister à passer par un autre résolveur DNS que celui fourni par ton FAI. Si tu veux, je peux t'aider en échange de ton argent de poche mensuel que je ne te donnerai pas. Ça te va?
Première règle, on ne touche pas à l'argent de poche. Deuxième règle, on ne touche pas à l'argent de poche. Et sinon, penser ou pas penser, bah, j'ai toujours pas choisi.
Bon, on va laisser reposer tout ça, et il est de toute façon difficile d'expliquer oralement comment mettre en place les choses pour reprendre un peu de contrôle sur tout ça. Mais s'il fallait retenir un truc, ce serait de chercher à se faire aider par des vrais gens physiques qui ont quelques compétences et avec qui la confiance s'est construite.
Comme toi, par exemple. En tout cas, par rapport au début de notre conversation, j'en sais désormais beaucoup plus sur les DNS. Par contre, je sais pas comment je vais pouvoir glisser ça dans les conversations avec mes potes. Hein. Toi, t'imagines vraiment au lycée balancer entre deux conversations sur les salsifis de la cantine et notre devoir de philo, un truc du style « Hey, les filles, vous pensez quoi des résolveurs DNS et du fait qu'à cause d'eux, on puisse pas mater du porno depuis les PC du lycée ?»
Il y a des salsifis à la cantine, des fois ? Waouh, c'est cool ! Bon, écoute, de toute façon, je te laisse réfléchir. J'ai un résolveur DNS sur le feu. Je t'envoie un doux neutrino soyeux.
Moi aussi, DNS papa.
Cette chronique s'autodétruira dans 10 secondes. Ou pas.
Non, c'est bon, pas d'explosion. Merci Laurent et Laurette. Une très belle introduction, je pense, pour notre sujet long à suivre. Une idée sur l'épisode 3 ou c'est toujours en...
Ce sera les mails ou la navigation internet, on est en train de réfléchir.
D'accord, affaire à suivre alors.
Affaire à suivre.
Merci Laurent. Eh ben, nous allons faire une pause musicale. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons écouter un style musical qui me semble assez rare sous licence libre. une chanson dans un style, une chanson pour enfants, dans un style plutôt folk que j'ai personnellement trouvé très plaisant. Nous allons écouter 1, 2, 3, Petit Pois par Ciboulette Company. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Écoutez 1, 2, 3, Petit Pois par Ciboulette Company, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la campagne Technopolis coordonnée par la Quadrature du Net. Et j'ai pour ça le plaisir de passer la main à Eda, membre du conseil d'administration de l'April et membre de la Quadrature du Net, que tu ne manqueras pas, j'imagine, de présenter. Et je rappelle, avant de te passer la parole, que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Eda, à toi la parole.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis Eda, je suis de retour sur les Andes et cette fois je suis très contente parce que je suis en direct du studio. Ça fait plaisir de revoir les amis de l'April et je suis en compagnie d'Alouette à distance et de Salut. Martin Drago. Donc Alouette est la coordinatrice de la campagne Technopolis, salariée à la Quadrature du Net, et Martin Drago, il est juriste, salarié du coup aussi à la Quadrature du Net. Et donc comme Étienne l'a rappelé, j'ai ma double casquette aujourd'hui. Puisque je suis aussi membre de la Quadrature du Net, qui est une association loi 1901, qui défend les libertés numériques, et pas que numériques, du coup, comme on va le voir avec Technopolis. Et du coup, ça se marie assez bien, je trouve, parce qu'on défend le logiciel libre et la culture libre à l'April, et on défend les libertés numériques avec la Quadrature du Net. Alouette, est-ce que tu es là ?
Oui, je suis là.
Coucou, bonjour.
Coucou.
Et en fait, je vais commencer avec toi, Alouette. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la Technopolis?
À la Quadrature, on a lancé la campagne Technopolis en 2019. Donc, c'est une campagne qui vise à lutter contre les technologies de surveillance, donc qui apparaissent d'abord dans l'espace urbain. Et là, on est parti du constat, en fait, qu'il se développait en France les smart cities et les safe cities. Donc, c'est toutes les villes intelligentes et connectées, les villes sécurisées par cet ajout de technologie. Et du coup, dans la campagne Technopolis, on vise à lutter contre cette numérisation de l'espace urbain à des fins sécuritaires.
Merci Alouette. Martin, pourquoi ce terme? Pourquoi avoir choisi le terme de Technopolis? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il signifie?
Je crois qu'on a chacun notre définition. Donc déjà, bonjour. Moi, je crois qu'on a chacun notre définition. Moi, je le vois de façon assez basique. Hein. Moi, je vois la Technopolis comme l'utilisation des nouvelles technologies dans l'espace public, comme l'a dit Alouette, par la police. Et puis, il y a un jeu de mots, parce que police aussi, c'est aussi la ville. Hein, j'ai envie de dire en grec, je crois. Hein, on va dire ça. Mm-hmm. Donc, c'est ce aussi là-dessus, entre police, ville et surveillance et technologie. À voir aussi que Technopolis, à la base, c'était aussi un salon de la gendarmerie utilisé sur les nouvelles technologies, donc qui était plus dans la promotion de ces nouvelles technologies de surveillance. Et qu'aujourd'hui, on a gagné, parce que le terme est plus utilisé en termes de critique qu'en termes de promotion. Donc ça, c'est déjà une première victoire. Hop, d'un coup, comme ça. Et voilà, c'est la définition la définition d'Alouette est parfaite, hein, franchement, c'est exactement ça. Je pense que juste à rajouter, c'est que effectivement, la Quadrature, au début, c'était beaucoup la question des défenses des libertés sur Internet. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait toute une partie sur laquelle on pouvait peut-être apporter quelques outils, quelques expertises, par l'expérience qu'on avait des outils de surveillance dopés un peu à ce qu'on appelle, ou ce que certains appellent l'intelligence artificielle, ou les capacités d'analyse en masse de données, comme le big data. Et qu'on voyait nous sur Internet et qui commençait à arriver sur l'espace public. Et là, on a vu qu'il y avait un peu un champ un peu libre où il n'y avait pas tellement de combats, alors qu'il y avait beaucoup de dispositifs qui se développaient et qu'il fallait effectivement documenter et lutter un peu contre tout ça.
Justement, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus en détail de ces dispositifs qui se développent un peu partout dans nos villes. Moi, je suis arrivée à la Quadrature du Net de par la campagne Technopolis et plus précisément de par ce qui se passait en termes de Technopolis à Marseille, la ville où j'habite. Où on avait en fait la mise en place de ce projet qui s'appelle l'Observatoire Big Data de la Tranquillité Publique. Donc il venait d'être mis en place, qu'on venait de découvrir, parce qu'il avait été commencé en 2017 et nous on l'a découvert en 2018-2019. Et donc ce grand projet comme ça qui visait à croiser un tas de données qui étaient des données issues de la vidéosurveillance, mais aussi issues des services municipaux, des hôpitaux publics, etc. Et du coup, on allait les croiser. Projet chapeauté par Engie Neo, donc une entreprise privée. Du coup, j'aimerais bien un petit peu qu'on revienne sur les premiers dispositifs qui nous ont alertés, qu'on a vus et qui nous ont poussés en fait à créer cette campagne. Est-ce que, Alouette, tu as des villes ou des projets particuliers en tête dont tu veux nous parler?
Oui, alors moi, j'étais pas encore à la Quadrature à ce moment-là, mais j'ai l'impression que les premiers projets qui ont vraiment alerté et qui était au fondement de la campagne Technopolis, il y avait par exemple l'écoute urbaine à Saint-Étienne, donc le fait de mettre des micros dans un certain quartier à Saint-Étienne pour écouter les bruits. Donc là, il y avait toute une sorte de bruit qui était listé, que ça allait des cris de meuleuses, de bruits de bombes aérosols, donc de bombes par exemple pour taguer ou ce genre de choses. Du coup là, il y avait tout un projet assez délirant de une fois que ces bruits étaient enregistrés et écoutés par ces micros, ensuite ça allait alarmer la gendarmerie, qui allait ensuite aller envoyer des drones pour vérifier ce qui se passait sur place. Et ensuite amener la police sur place. Donc il y avait ce projet-là. Après il y a aussi beaucoup à Marseille et à Nice, les portiques de reconnaissance faciale qui étaient censés être déployés à l'entrée de deux lycées, qui visaient à scanner en fait la tête, le visage des élèves avant qu'ils rentrent, comme une sorte de carte pour qu'ils puissent rentrer. Donc il y avait ces projets-là qui étaient au cœur de la campagne Technopolis au début. Je ne sais pas si Martin, tu veux ajouter d'autres choses.
Oui, je veux bien Martin que tu nous parles un petit peu de la lutte juridique du coup qu'il y a eu contre notamment le projet des portiques de reconnaissance faciale. Ils ont été mis en place en fait. Ce projet-là a été mis en place, il me semble.
Ouais, ils ont arrêté juste avant.
Ah oui, bon, explique-nous du coup.
Non, t'inquiète. C'est effectivement, on va dire que dans la campagne Technopolis, bon, moi je préfère qu'on n'arrête pas tout au droit parce que sinon c'est rapidement embêtant.
On va en parler très peu.
Embêtant pour rester très poli. Mais effectivement, un des moyens de lutte qui existe aujourd'hui, c'est l'outil juridique ou contentieux. Et en fait, bon, faut voir un truc, c'est qu'on voit exactement comme dit Alouette tous ces dispositifs qui se déploient. Et on voit aussi finalement qu'il y a. S'il y a des collectifs locaux qui font des trucs sur place, les instances nationales, elles ne réagissent pas. L'instance nationale, quand je parle d'instance nationale, c'est évidemment la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, c'est l'autorité qui est censée nous protéger de tout ça, et qui là, fait pas grand-chose, et faisait pas grand-chose déjà à l'époque, malheureusement. Alors, elle fait des trucs, elle fait des trucs un peu d'échanges de courriers. On sait qu'ils ont des échanges de courriers avec les collectivités, typiquement sur les portiques de reconnaissance faciale. Elle donnait des conseils en disant ça serait vraiment très grave. Ça, si vous faites ça, si par exemple vous ne faites pas de base de données des visages des élèves, ça sera moins grave. Donc, on va dire qu'elle met quelques limites, mais sans aller vraiment jusqu'à une vraie volonté politique qui serait l'interdiction de ce type de dispositif, quoi. Et c'est là où l'outil juridique est assez cool. Ça permet, d'essayer de faire arrêter strictement ces dispositifs. Et puis il y a aussi derrière, comme tout enjeu juridique, un enjeu de médiatisation, un enjeu de politisation aussi, parce que ça permet de faire parler un peu tes dispositifs. Et donc du coup, effectivement, on est attaqué la région sud, du coup, qui avait fait un partenariat avec Cisco. Cisco est une entreprise américaine qui donnait gratuitement ses portiques de reconnaissance faciale pour tester ses algos tranquillement à l'entrée des lycées. Et nous, on a attaqué, en gros, je vais aller très vite, la délibération qui autorisait la signature de la convention. J'espère que j'ai endormi personne. Et du coup, on a gagné sur des principes juridiques assez, assez intéressants, qui notamment celle de la nécessité. En droit, sur beaucoup de trucs, notamment le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles. Quand vous faites un dispositif qui traite des données personnelles, il faut que vous prouviez que ce soit nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun autre dispositif qui puisse atteindre le même objectif en portant moins atteinte à nos libertés. Or là, ce que disait le tribunal administratif et ce qu'a redit la CNIL derrière une fois qu'on avait gagné, c'était à aucun moment la région n'avait prouvé qu'un humain ne ferait moins ou mieux ou moins bien ce travail qu'un portique de reconnaissance faciale. Et à partir du moment où il n'y avait pas cette preuve, en fait, du coup, le projet s'est un peu dégonflé. Et il y avait d'autres raisonnements juridiques derrière, mais que je trouve moins intéressants. Ce truc de la nécessité, c'est un argument politique que nous, on utilise beaucoup, enfin juridique, mais qui derrière se politise énormément, que je trouve hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est très clair.
Oui, c'est très clair. Merci, Martin. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur ces dispositifs-là. Et si vous le voulez bien, parler de vidéosurveillance automatisée, VSA. On entend souvent parler aussi de vidéosurveillance intelligente, VSI. C'est la même chose. Une des premières villes où ça a été mis en place, c'était Marseille. Donc nous avons porté deux recours là-dessus. Mais justement, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est la VSA Alouette?
Oui, du coup, la vidéosurveillance automatisée, c'est le fait d'ajouter une couche de logiciel sur les caméras de vidéosurveillance classiques. Donc en fait, de l'extérieur, on voit pas du tout la différence. Sauf que ces logiciels-là, elles ont pour but d'avoir une surveillance encore plus fine. Donc ça fait par exemple remonter des informations et des alertes au CSU, au centre de supervision urbaine, donc c'est là où il y a le visionnage des vidéos, des caméras de vidéosurveillance. Et donc ça permet en fait de faire remonter des alertes comme par exemple quelqu'un qui maraude, ça veut dire que marauder là dans son sens-là, c'est qui est statique plus d'un 300 secondes, plus d'un certain nombre de secondes. Donc là ça envoie une alerte en disant en fait aux gens derrière ces caméras de vraiment surveiller cette personne parce que elle a un comportement bizarre. Ou sinon, il y a les algorithmes aussi qui détectent, qui essayent de détecter ce qu'ils appellent les comportements anormaux. Donc après, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ce comportement anormal et derrière ce terme-là. C'est en fait l'entreprise qui développe les algorithmes qui décide ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être des gens qui courent dans la rue, une valise abandonnée, quelqu'un qui tague, ce genre de choses. Donc tous ces algorithmes-là, ils ont pour but d'avoir une surveillance encore plus fine de l'espace public, à travers du coup l'automatisation de la surveillance. Et donc ça, ces algorithmes-là, ils sont développés à Marseille, à Toulouse, enfin dans plein de villes, de plus en plus, énormément. Et sauf que c'est très opaque, on arrive à savoir, mais ça demande beaucoup de recherche. Les dispositifs de VSA sont employés.
Et du coup, ce qu'on remarque, c'est que en fait, on a une sorte, en quelque sorte, ce sont ces entreprises privées qui vendent ces solutions-là, qui décident qu'est-ce qui est un comportement suspect ou pas dans nos villes aujourd'hui. Ce n'est plus la société, les habitants qui décident ou discutent de ça. Ce sont des entreprises privées qui imposent du coup cette éthique, entre guillemets, de comportement en ville. Qu'est-ce que tu en penses, Martin ?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que aussi le truc de la smart city, c'est souvent on utilisait un terme anglais, des packages, quoi. Donc en fait, on va avoir une entreprise, je sais pas moi, Thales, qui va avoir son paquet Safe City, qui va essayer de revendre partout. Et effectivement, qui va avoir développé en considérant qu'un comportement anormal, comme disait Alouette, c'est le maraudage, c'est se mettre à courir dans la rue, c'est faire un tag sur les murs. Et donc du coup, effectivement, qui va vendre ses différents produits à différentes villes. Et les différentes villes, finalement, vont acheter ça. Alors peut-être qu'elles vont un peu discuter sur moi je considère ça comme anormal ou pas, mais n'empêche qu'à la fin on prend le produit Thales et on l'applique, je cite Thales parce que c'est une grande entreprise dans le sujet, mais et qui va l'appliquer dans sa ville. Et effectivement on arrive dans des trucs hyper intéressants et hyper tristes en même temps. Et ben en fait de ce qui fait que la surveillance de l'espace public est totalement déshumanisée parce qu'elle est réglée en partie par des algorithmes qui sont plus décidés, comme tu le disais, par la collectivité, mais par des ingénieurs dans des entreprises privées. Et surtout, souvent, on est sur de l'apprentissage profond, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus tellement comment marche exactement l'algorithme, parce que l'algorithme va apprendre tout seul à suivre, par exemple, quelqu'un, suivre une silhouette, par exemple, sur plusieurs caméras, ou suivre quelqu'un sur plusieurs caméras, comment l'algorithme est entraîné, comment lui-même s'est entraîné, quelles sont les bases de données d'entraînement, tout ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas du tout accès. Et donc finalement, on perd un peu le contrôle de la machine qui pourtant surveille de plus en plus l'espace public.
Et du coup, comment est-ce que la campagne Technopolis peut nous aider pour lutter contre ces dispositifs-là, pour les analyser, pour savoir ce qu'il en est? Parce que moi, je prends l'exemple de Marseille, où vraiment la veille et arriver à savoir ce qui se passe exactement, c'est très difficile. On est souvent, pour pas dire toujours, dans l'opacité totale. Comment on fait, Alouette? Comment est-ce que la campagne peut nous aider? Quels sont les outils mis en place ou...
Ben ça, pour la campagne, on a mis en place le forum, du coup le forum Technopolis, où il y a des personnes un peu partout en France qui peuvent alerter quand il se passe quelque chose chez elles, chez lui, parce que c'est souvent des dispositifs qui sont mis en place au niveau local, et du coup on n'a pas forcément une vision sur tout le territoire de ce qui se passe. Donc ça permet déjà d'être au courant, et ensuite ça permet aussi, ce forum-là, il peut permettre aussi à des gens qui viennent à peu près des mêmes endroits de se rencontrer, et du coup de se parler et de voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'elles peuvent faire au niveau local. Donc il y a tout le forum qui est un outil de veille, de documentation, de rencontre entre les personnes. Et ensuite, on fait également, on documente sur un outil qu'on appelle le carré. Donc ça, c'est des pads collectifs où on documente ces dispositifs-là et qu'après, on met sur le site Technopolis où il y a une super carte qui essaye de lister un peu tous les dispositifs en France et pas que, aussi en Belgique ou ailleurs. Donc il y a ces outils-là, notamment, qui permettent surtout la documentation et la rencontre entre les personnes.
Et Martin, on a parlé il y a 2 semaines ici sur les ondes de la radio Cause Commune dans l'émission Libre à vous, où on avait invité l'équipe de Madada. On a parlé des demandes CADA. Je sais qu'on les utilise beaucoup dans la campagne Technopolis. Qu'est-ce qu'on fait avec et c'est quoi l'intérêt du coup?
Tu me donnes que les trucs juridiques secs.
Non, je vais changer après.
Non. Ça paraît un peu triste comme ça, hein, mais c'est vrai que la demande CADA, qui est une demande en gros de dire à des collectivités qui ont des documents qui sont publics, un caractère public, mais qui ne sont pas publiés, bah, ça permet à n'importe qui, vous, moi ou n'importe qui, de demander à la publication de ce document, en tout cas de demander à la communication de ce document administratif. Et du coup, ça peut paraître un peu bête comme ça, mais moi je le vois pas mal, c'est vrai, en première étape de documentation et de lutte. Si je prends Saint-Etienne, par exemple, je trouve que c'est un bon exemple, on a appris par la presse, parce que Gaël Perdriau, le maire de droite de Saint-Etienne, se vantait d'avoir mis en place ces capteurs sonores dont parlait Alouette tout à l'heure. On fait une demande CADA et on a reçu 150 pages. Je sais pas qui à la mairie a été affilié à la quadrature secrètement, mais on a eu tous les procès-verbaux des réunions, tous les schémas de l'entreprise qui développait ça avec Saint-Etienne, qui est Vernet Caron, l'entreprise qui fait des flashballs. Et rien que le fait d'avoir ça, on a tout diffusé nous ensuite sur notre site en faisant un petit article d'analyse. Ça a rendu visible le projet, le dispositif, qui en plus, comme disait Alouette, parlait de drones et de reconnaissance de graffiti, etc. Et rien que le fait d'avoir publié ces documents, ça a contribué un peu à la pression politique, ça a montré un peu le ridicule et les dangers du projet, et finalement ça a abouti à la fin à une sanction de la CNIL contre Saint-Etienne. Donc c'est ce truc de demander ces documents, ça permet de visibiliser le projet, de mieux le comprendre et quelquefois même de le faire tomber. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, nous, je pense que des demandes CADA à la Quadrature, on en fait au moins 2-3 par semaine, quoi. À chaque fois qu'on entend parler d'un projet, en fait, c'est assez rapide grâce à madadin.fr, j'avoue, je l'utilise très régulièrement, c'est hyper pratique. En fait, on en fait beaucoup, ça prend 5 minutes. Il y a 10% de chances de réussite, mais 10% de chances de réussite, c'est déjà pas mal.
Et je reviens un petit peu sur le forum. D'abord, je voulais dire que sur le site Technopolis, on a un endroit pour pouvoir fuiter des documents. Ça s'appelle Fuiter, c'est un logiciel libre évidemment derrière qui s'appelle SecureDrop, qui est raccordé, pour les plus techniciens, qui est raccordé derrière, mais on peut très facilement fuiter des documents, donc n'hésitez pas. Que vous soyez employé à des mairies, que vous soyez employé chez des entreprises comme Thales, etc. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tout ça, n'hésitez pas, en toute sécurité, vous pouvez fuiter des documents sur SecureDrop, sur Fuiter. Ouais. Et ensuite, je voulais revenir un petit peu sur ce forum où j'ai fait mes tout débuts, en fait, dans la campagne Technopolis, et où je suis arrivée un jour et j'ai dit « Ah, mais c'est quoi ici ? Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur la cartographie des caméras à Marseille où j'habite, etc. ?» C'est comme ça que pour moi, tout a commencé vraiment. Et petit à petit, en fait, je me suis de plus en plus impliquée dans la campagne Technopolis locale. Et petit à petit, dans la campagne Technopolis nationale, nous avons fait une exposition artistique, vraiment artistique, qui s'appelait Technopolis à Marseille. Donc je voulais en parler parce que nous avons Marne à la Quadrature qui a fait des visuels vraiment magnifiques sur cette campagne qu'on peut trouver pour la plupart sur le site technopolis.fr. Je crois que c'est dans guide d'action ou se mobiliser, je crois. Voilà, c'est l'anglais se mobiliser. Et là, on a un kit image magnifique où Marne s'est vraiment inspiré un peu de cette atmosphère oppressante de la smart ville et de la ville surveillée. Et du coup, on a fait comme ça une exposition dans une galerie alternative à Marseille de ces visuels-là. Et mine de rien, on accueillait du public souvent et on a vu passer vraiment des gens très intéressés, très interpellés par ces problèmes-là, des citoyens simples avec qui on a pu discuter des problèmes de ces dispositifs-là, des moyens de se mobiliser, etc. On en a refait une autre à Avignon quelques mois après. Et à chaque fois, on remarque en fait que les gens ils sont vraiment très interpellés par ces dispositifs-là, par ce qui se passe autour d'eux, parce qu'en fait, on leur a jamais demandé leur avis. Ils n'ont pas été concertés et ils ne comprennent pas vraiment en quoi est-ce que cela aide à la sécurité de la ville. Donc voilà, je vais poser la question que tout le monde pose, qui est, quelle est l'efficacité de ces dispositifs ? Mais je vais aller même au-delà, Alouette, si tu veux bien en parler. Quel est le but de ces dispositifs ? Et est-ce que le sentiment de sécurité ou d'insécurité y est pour quelque chose dans cette histoire ? Et est-ce qu'on peut tout voir du prisme de la sécurité ? Parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes qui sont induits par ces dispositifs-là et qui vont au-delà de cette sécurité que ce soit réel ou que ce soit juste le sentiment en fait que ça induit.
Ce sentiment d'insécurité là, j'ai l'impression que c'est surtout quelque chose qui a été porté dans le discours politique et dans le discours médiatique, mais qui n'a pas vraiment de fondement en fait. C'est à travers la naissance de ce concept là qu'en fait il s'est créé tout seul et qui s'auto-alimente. Mais du coup la question de l'efficacité de ces dispositifs et de ce pourquoi ils sont déployés dans l'espace public. Je pense aussi d'abord qu'il faut rappeler que il y a d'énormes enjeux économiques et politiques derrière, que ce soit à travers l'ouverture de nouveaux marchés. Donc on voit des entreprises qui sont des entreprises de la défense, de la sécurité comme Thales, des entreprises comme Engie et Neo qui sont des entreprises qui n'étaient pas dans ce domaine à la base, ou alors des startups qui également derrière. Enfin, il y a tout un champ d'entreprises assez différentes qui vont dans ce marché-là, parce que c'est un marché qui est économiquement rentable, hein. Les caméras vidéosurveillance, ça coûte énormément d'argent et il y a besoin de les renouveler assez régulièrement, etc. Donc il y a tout un poids économique très fort et politique aussi de la part des élus, des villes, etc. Parce qu'en fait, ça constitue une ressource politique pour ces élus-là de dire, bah, regardez, moi je fais quelque chose pour ma ville, je mets des caméras. Et c'est un discours qui est assez facile à tenir, à porter. Donc il y a tout ce côté-là de pourquoi ces dispositifs sont installés. Il y a des énormes enjeux économiques et politiques derrière, avant tout.
Merci Alouette, je laisse la parole à Étienne pour la pause musicale, je crois.
Pas toujours, je voulais juste faire un retour de témoignage, bref. Moi j'habite sur Saint-Denis et j'ai reçu, comme je pense beaucoup de Dionysiens, la lettre d'information municipale. Et il y avait un petit encart, la ville se vantait de nous expliquer qu'il y avait plus de caméras et que bientôt des policiers, des agents de police seraient dans des centres, alors j'ai oublié le terme exact, mais à surveiller à peu près 7 jours sur 7 ce qui se passait derrière ces caméras. Et donc c'est un gouvernement, enfin c'est une municipalité PS, donc qui se vante très naturellement. Mmh. Alors que voilà, on se dit, il y a quelques années encore, on voyait les affiches de Béziers, tout le monde se scandalisait d'imaginer par exemple des policiers municipaux avec qui seraient armés, et on voit comment ça se banalise. Et voilà, donc enfin ça a vraiment évoqué ça, du coup, ce qu'expliquait Alouette.
Étienne, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'à Marseille, il se passe un peu la même chose. Nous avons eu une nouvelle municipalité il y a un an, qui cette fois est de gauche, et qui en plus se dit écologiste. Et du coup, en fait, on s'attendait tous, en plus ils avaient promis, donc c'est normal qu'on s'y attendait, qu'il y ait un moratoire sur la vidéosurveillance dans notre ville. Et qu'est-ce qu'on remarque en fait, avec beaucoup de tristesse, mais vraiment une sincère tristesse depuis quelques mois, c'est qu'ils continuaient, ils ont continué les marchés de maintenance des caméras de surveillance, ensuite des marchés qui prévoient des budgets qui prévoient d'augmenter ces caméras de vidéosurveillance. Nous avons un recours en cours contre la vidéosurveillance automatique de Marseille, que dans un premier temps ils avaient dit qu'ils avaient suspendu, mais finalement ils se défendent avec un grand cabinet d'avocats parisien. Et ensuite, dernière nouvelle vraiment triste, c'est qu'on vient d'apprendre qu'il continue ce fameux projet observatoire Big Data de la tranquillité publique. Donc c'est une mairie de gauche, c'est une mairie qui se dit écologiste. Comment on l'explique, Martin?
C'est ce que Alouette a dit, hein. Franchement, c'est que c'est un argument facile politiquement, qu'il y a toujours des élections en jeu, et que dire qu'on fait quelque chose, ça permet de souvent se faire réélire sans avoir à s'occuper du fond, et plus de faire de l'esbrouf algorithmique, on va dire. Ça marche toujours.
C'est d'autant plus important, du coup, d'avoir des campagnes comme Technopolis.
Oui.
Pour un petit peu.
Et des gens sur le forum, si elles n'étaient pas allées.
Avant qu'on fasse la pause musicale, Marie-Odine nous pose une question sur le salon qui me semble faire parfaitement écho à ce que tu évoquais, notamment sur les budgets en fait, que ça fait poser sur la ville, qui est une considération assez concrète. Quelle est la durée de vie? Est-ce que vous savez la durée de vie de ces caméras? Parce qu'on imagine que c'est très cher, s'il faut les renouveler tous les 4-5 ans, en plus toute la logistique derrière à payer, est-ce qu'on a une idée de la durée de vie? Me pose la question Marie-Bodil.
Eh bien, la durée de vie, par exemple, dans une ville comme Marseille, on a 1500 caméras actuellement en place. On a un budget de maintenance, donc juste maintenance, qui est de près de 7 millions par an d'euros. Et la durée de vie, c'est très variable, en fait. Il va y avoir les conditions climatiques, il va y avoir... ça dépend du matériel, etc. Mais il peut y avoir des dégradations qui viennent de la population aussi. Donc, j'en ai aucune idée, parce qu'en fait... toutes les données sont opaques, et même ça, c'est opaque. Par contre, je sais que le remplacement est très rapide et qu'on ne s'est jamais posé la question du coût écologique de ces dispositifs-là. Oui, Martin, tu voudrais dire?
Non, je vous invite. Il y a des documentations là-dessus qui sont une grande partie de la vidéosurveillance en France est financée par un fonds public d'État qui s'appelle le Fonds de prévention de la délinquance. Et c'est des documentations qui sont publiques, et vous verrez là-dessus les financements extrêmement importants qui sont donnés par l'État chaque année pour financer en masse la vidéosurveillance, et qui s'est lancé notamment depuis 2012, et Sarkozy qui voulait justement financer et faire un grand plan de vidéosurveillance en France.
Et ça va pas s'arrêter parce qu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent, mais on va en parler peut-être après la pause avec Alouette et Martin.
Super, merci Eda, nous allons effectivement faire une pause musicale. Je vous propose d'écouter Late as Usual par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve juste après, je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. We'll be right back.
venons d'écouter Late as Usual par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous sommes donc avec Eda, Martin et Alouette pour parler de Technopolis et je vous rends la parole.
Re-coucou tout le monde, nous sommes de retour du coup avec Martin de la Quadrature du Net et Alouette de Technopolis, une campagne coordonnée par la Quadrature du Net, mais qui en fait est une campagne très décentralisée. Très décentralisée, ça veut dire quoi ? Que sur le forum Technopolis, nous avons différentes villes et différents collectifs dans chaque ville qui participent à la campagne, mais aussi différents collectifs autour qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la Quadrature du Net, mais qui s'emparent de ces questions-là. Et nous allons entendre Pablo de l'UCL, par exemple, qui parle de leur campagne Technopolis et de liens avec notre campagne.
L'Union communiste libertaire, l'UCL, c'est une organisation politique qu'on a fondée en juin 2019 en fusionnant Alternative Libertaire et la coordination des groupes anarchistes. Elle est bâtie sur le modèle démocratique qu'on défend, c'est-à-dire sur une structure fédéraliste. Donc c'est d'abord une fédération de groupes locaux qui sont répartis géographiquement sur toute la France, mais c'est aussi des commissions et des groupes de travail, ce qui nous permet de rassembler de manière transversale des militantes et des militants de toute l'organisation autour de sujets politiques comme l'antifascisme, l'antipatriarcat ou l'écologie, mais aussi donc sur le librisme, c'est-à-dire le groupe qui s'occupe des libertés numériques. L'UCL s'est lancé dans la campagne Technopolis sous l'impulsion de notre commission Librisme, justement. On peut plus vraiment dissocier aujourd'hui nos libertés numériques de nos libertés tout court. En tant que communistes libertaires, on lutte contre toutes les formes de domination, d'oppression ou d'exploitation. Et dans l'espace numérique, mais pas que, on a ce qu'on aurait envie d'appeler d'un côté le capitalisme de surveillance, avec les plus grosses multinationales capitalistes dont le business model c'est la récolte de nos données et la revente de nos profils, c'est-à-dire la surveillance de masse, quoi. Et de l'autre, on a des États, et la France en particulier, dont les dérives autoritaires et sécuritaires sont toujours plus inquiétantes. Ça fait des années, par exemple, que l'arsenal législatif qui fait de chacun et chacune de nous des suspects, voire des coupables, il se renforce considérablement. Encore en ce moment avec la loi sécurité globale ou la loi séparatisme, par exemple. On assiste aussi au déploiement de plus en plus massif de la vidéosurveillance et des technologies d'identification automatisée. En fait, c'est ça la Technopolis. Et ça, les États, ils le font en collaboration avec des entreprises. Par exemple, on a vu sur la reconnaissance faciale avec Amazon et Facebook. En tout cas, les intérêts des dirigeants, ils convergent, ça c'est sûr. C'est la lutte des classes, hein, concrètement. Qu'ils soient à la tête des États ou qu'ils soient à la tête des entreprises, ce qu'ils veulent, c'est nous surveiller, nous ficher, pour mieux nous contrôler, pour mieux nous exploiter et nous rentabiliser. Donc nous, dans notre mensuel Alternative Libertaire, on publie régulièrement des articles sur ces sujets-là. Alors ça peut être des articles de réflexion, hein, sur notre rapport aux GAFAM, par exemple, ou des articles bien plus concrets, comme là, dernièrement, sur l'application Signal ou sur la surveillance à distance par les patrons lors de la généralisation du télétravail. Alors, on fait aussi de la formation, essentiellement en interne pour l'instant, à l'hygiène et la sécurité numérique. Et donc là, en plus de ça, on a rejoint la campagne contre la Technopolis, qui a été lancée par la Quadrature du Net et dont l'UCL a signé l'appel en septembre 2019, donc quelques mois seulement après notre création. Et donc de notre côté, on a monté une campagne qui s'appelle « Contre le capitalisme de surveillance et la Technopolis, le logiciel libre ». Le libre pour nous, c'est hyper important, pour se défaire des aliénations aux outils numériques et pour se protéger collectivement. Alors j'insiste bien sur le mot « collectivement », hein, on ne croit pas du tout aux solutions individuelles. Pour se protéger collectivement donc de la surveillance, les outils libres ils sont indispensables. Ils sont pas suffisants mais ils sont nécessaires. On recommande en fonction des usages des outils libres permettant de lutter contre la surveillance. Par exemple pour naviguer sur le web on recommande le navigateur Tor. Pour l'usage réseau social on recommande Mastodon qui a l'avantage en plus d'être bâti sur un modèle fédéré qui est complètement compatible avec le modèle du fédéralisme qu'on défend par ailleurs. De manière générale on promeut une vision des logiciels libres comme des communs, c'est-à-dire des biens non marchands qui profitent à toutes et tous et sans imposer d'aliénation.
Nous venons d'écouter un communiqué enregistré par l'UCL. Donc, si on en parle ici, c'est parce que lorsque nous avons lancé la campagne Technopolis, on a tout de suite été épaulés par un tas d'associations comme l'UCL qui ont signé notre appel de lancement de campagne. Et donc, on a eu une décentralisation de cette campagne associative, mais ensuite qui s'est passée aussi au niveau citoyen à travers les différents collectifs qui sont nés sur le forum dans les villes. Est-ce que, Alouette, tu peux nous parler un petit peu de comment ça marche, du coup, cette décentralisation ou les liens qu'on crée les uns avec les autres?
Bah, L'idée, quand on a lancé la campagne Technopolis, c'était de mettre à disposition des outils et des aides potentielles, mais que c'était d'abord aux gens qui habitaient dans les villes, qui étaient les mieux placés pour se saisir de ces questions-là et pour lutter contre ces dispositifs-là. Du coup, l'idée du forum, c'est de permettre de rencontrer les gens, d'échanger, d'avoir d'échanger sur les expériences, etc. Mais dans l'idéal, il y a des groupes. Enfin, il y a des groupes qui sont créés. Et dans l'idéal, il y en aura plus. C'est le fait que, par exemple, à Marseille, il y a un groupe qui lutte contre la Technopolis et qui est mieux au courant de ce qui se passe dans la ville, qui peut plus suivre, plus faire de veille et de pression, quelle qu'elle soit, sur la municipalité. Il y a aussi récemment, il y a quelques mois, le Technopolis belge qui s'est créé. Donc il y a un groupe de personnes à Bruxelles notamment qui lutte contre la Technopolis notamment et qui fait beaucoup de cartographie, de caméras de vidéosurveillance, mais pas que, de dispositifs anti-SDF, qui cartographie tout ce genre de choses, donc qui est aussi une manière de lutter contre la Technopolis.
Oui, d'ailleurs, le groupe Technopolis Marseille, par exemple, dont je fais partie, il est très indépendant. Effectivement, on fait une veille assez forte sur des sujets et on revient vers vous ensuite pour un peu croiser les connaissances de chacun et pour avoir un peu un appui plus juridique, par exemple, si on manque de juristes, plus graphique, si on manque de graphistes. Mais si on peut, en fait, en interne, on va essayer le plus possible d'être indépendant. Et du coup, la campagne est coordonnée par la Quadrature, mais elle est plus là pour un peu nous apporter cette aide ou cette médiatisation dont on aurait besoin, plutôt que pour chapeauter ou donner des règles. Il n'y a pas de règles, en fait, c'est un peu... N'est-ce pas, Martin?
Un peu anarchiste.
Un peu.
oui, bah après, je rejoins totalement ça. Il y a aussi la question que la Quadrature, on est 7 salariés, et qu'il y a malheureusement d'autres sujets que la surveillance dans l'espace public. Et il y a aussi ce truc que, de toute façon, on ne pourra pas faire, quoi. Et heureusement, on ne prétend pas pouvoir tout faire, et on ne doit jamais prétendre pouvoir faire ça. Et tout au plus, en plus, ne jamais prendre la parole de quelqu'un d'autre. Donc du coup, oui, c'est le fait de nous, voilà, quelques expertises qu'on peut faire, voilà ce qu'on vous conseille, ou ce que nous, on fait en tout cas sur les demandes CADA. On met à disposition tous nos contentieux juridiques avec toutes nos écritures. Alors c'est complexe à faire un contentieux administratif, mais on sait jamais, il y a peut-être des gens qui sont motivés, ben on les donne aussi. Je pense typiquement au contentieux qu'on a fait contre les drones, qu'on a gagné. On a publié toutes les écritures, et là, en ce moment... À Lyon, il y a des gens qui essayent de faire à peu près la même chose sur les hélicoptères de surveillance, parce que c'est à peu près le même problème juridique. Donc c'est aussi cette idée-là, effectivement, de vraiment de boîte à outils, quoi, et de mettre tout à disposition en disant, voilà, nous, comment on fait, vous faites ce que vous voulez. C'est juste, c'est plus facile si on est plusieurs et si on peut se coordonner.
Mais du coup, j'en profite vraiment pour vous dire là largement que si vous êtes intéressé par cette question-là, si autour de vous, dans vos villes, vous remarquez qu'il se passe des choses en termes de surveillance, de vidéosurveillance, de surveillance numérique, etc., n'hésitez pas à venir sur le forum de façon anonyme, pseudonyme, ce que vous voulez, vous inscrire et commencer à lancer un groupe local ou même juste poser des questions et en espérant qu'il y ait des réponses et que quelque chose naisse naturellement.
En plus, je veux pas être déprimant, mais c'est sûrement il se passe quelque chose en fait dans votre ville. Et ce qu'on voit par exemple nous, c'est que c'est très rare maintenant. Bon, il y a de plus en plus de villes qui installent ce qu'ils appellent eux de la vidéoprotection, donc des caméras de vidéosurveillance dans la rue. C'est très rare maintenant que ça soit juste des caméras simples, entre guillemets, sans derrière un logiciel d'analyse. Et même, on se rend compte que nous, dans les demandes qu'on fait, dans les enquêtes qu'on fait, que la mairie ne sait même plus ce qu'elle installe, en fait. Elle sait même plus, enfin, c'est dans le package, si vous voulez, il y a à un moment une ligne avec marqué logiciel d'analyse d'image. On ne sait pas ce que fait ce logiciel d'analyse d'image. Souvent, c'est un sous-traitant. Et donc, malheureusement, il y a des grandes chances qu'il y ait un dispositif comme ça chez vous, même dans des tout petits villages. Hein. Moi, je me rappelle qu'on était allé tracter un moment au congrès des maires à l'AMF, là. Il y a longtemps, et c'était beaucoup de maires de petits villages qui nous disaient que eux, oui, ils voulaient installer de la vidéoprotection pour surveiller les déchetteries, pour surveiller les gens qui pouvaient uriner sur les murs, etc.
Étienne ?
Du coup, j'aurais une question. Alors, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais on entend souvent parler de biais racistes dans les algorithmes. On imagine que ce genre d'algorithme-là n'en est pas exempt. C'est chiffré, c'est un peu documenté, ça, ou on suppose que ça existe aussi dans ce genre d'algorithme parce que ça a été plutôt validé sur d'autres... sur d'autres configurations, plus de prédictions, me semble-t-il.
Je veux bien répondre. C'est vraiment une question qu'on évite d'aborder pour une raison très simple, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on a passé une étape dans la réflexion et que finalement, ben, pour avoir fait le congrès Technopolis à la gendarmerie, la question des biais racistes dans les algorithmes de surveillance, eux, ils en sont pleinement conscients. Et donc on avait des grands tableaux de Thalès qui nous disaient, vous voyez, là on était à 30% d'erreur et maintenant on est tombé à 10%. Et donc on s'est aussi rendu compte en étant là-bas qu'une fois que ce taux serait dépendu à 0,5%, ben en fait, même si peut-être que ça n'arrivera jamais, hein, mais que du coup on avait passé une étape qui était, est-ce qu'on veut de l'algorithme de surveillance avant de parler de son efficacité, etc. Donc pour répondre à ta question, mais même si ça ne répond pas vraiment, je pense que politiquement, nous, on fait très attention à pas trop aborder ce sujet en disant, attention, on est en train de sauter une étape sur, avant de s'intéresser à comment et est-ce que ça marche mal, est-ce qu'on en a besoin, quoi. Voilà. Je sais pas si Alouette...
Alouette ?
Non, t'as tout dit. T'as tout dit.
Après, il y a pas mal de sociologues quand même qui s'intéressent aux questions de biais ou d'effets de bord, on va dire, excusez-moi pour les termes techniques, que ça fait naître, ces dispositifs-là. Et donc moi, j'avais lu un tas d'articles qui sont d'ailleurs tous documentés sur le forum Technopolis sur le fait que, en fait, la vidéosurveillance, par exemple, on remarque qu'elle crée ce phénomène de on déplace les problèmes, on déplace l'insécurité. Donc si une zone est vidéosurveillée, etc., donc elle se gentrifie, elle devient sûre entre guillemets, mais hop, toute la délinquance, les problèmes, etc., passent au bord de cette zone, passent en banlieue. Et tout un tas de phénomènes comme ça, géographiques, et qu'on remarque dans des villes vidéosurveillées depuis quelques temps, que les sociologues ont quand même étudié. Et je me rappelle aussi d'un article qui parlait de ces biais-là et qui disait qu'en fait, comme les algorithmes, c'est fait par des humains, donc finalement c'est juste des recettes créées par des humains, et ben les biais humains qu'on a, dans la police qu'on a parmi nous tous, et ben les biais sociaux, racistes, etc., ils se retrouvent forcément, et on peut les chiffrer, je ne sais pas comment il faut voir le détail de l'article, mais on peut voir que ces biais-là se retrouvent ensuite dans les résultats obtenus par ces algorithmes-là. Donc voilà, sur le forum, on peut trouver, je pense, pas mal de choses là-dessus. Et je voulais juste, du coup, revenir un petit peu sur le contentieux drone. Et si tu veux nous dire quelques mots, Martin, qu'est-ce qu'on a gagné ? Et la loi SG qui est venue juste après, qui a fait que ben on a eu que quelques mois de plaisir.
Attends, c'est toujours pas fier.
C'est vrai, c'est vrai. On a le Conseil constitutionnel.
Oui, pardon, je vais reprendre l'historique du coup rapidement. Donc la loi SG, c'est la loi sécurité globale. Bon, rapidement, ça fait longtemps que la police utilise des drones, hein, malheureusement, pour surveiller les manifestations. Et pendant le premier confinement, quelle tristesse de dire ça, mais que pendant le premier confinement, du coup, on a vu que la police et la gendarmerie utilisaient énormément de drones pour surveiller le respect du confinement, et notamment diffuser par des haut-parleurs les consignes sanitaires, quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, et nous, en cherchant, on s'est rendu compte en fait que c'était totalement illégal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y avait aucun cadre juridique à l'utilisation des images que pouvait faire la police des drones. Très rapidement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est vraiment nul, mais il est là. Il y a un cadre juridique pour les vidéos fixes, d'accord ? Les caméras fixes, c'est-à-dire combien de temps vous pouvez garder l'image, qu'est-ce que vous pouvez filmer, qui peut regarder les images. Pour les drones, il n'y avait rien. Ce qui fait qu'en fait, la police pouvait faire ce qu'elle voulait avec les drones, sans aucune limite ou contrainte. Donc ça, nous, on a attaqué, on a gagné devant le Conseil d'État, bref, parce que ça se passait devant le Conseil d'État, sur les notions sanitaires. Et ensuite, la police n'a pas respecté, elle a continué à utiliser les drones pour surveiller les manifestations. On a réattaqué, donc on a regagné devant le Conseil d'État fin décembre 2020. Et puis pendant ce temps-là, en fait, pour combler ce vide juridique, hein, parce qu'on gagnait sur ça, parce qu'on gagnait sur ce fait que la police utilisait des drones sans cadre juridique, pour combler ce vide juridique, a été introduit dans une loi qui devait être discutée depuis longtemps sur les polices municipales et les forces de sécurité privées, une disposition pour essayer d'encadrer un peu, de créer un régime juridique des drones. Donc ça, c'est la loi sécurité globale. Donc c'est pour ça que tu dis que d'un côté on a gagné parce qu'on a eu 2 victoires contre la préfecture de police de Paris, ce qui est cool, et on lui a fait payer 6 000 euros de frais de justice, ce qui fait toujours plaisir, c'est un don de la préfecture. Mais de l'autre côté, en fait, bah oui, la loi sécurité globale, elle vient d'être adoptée par le Parlement et elle va permettre à la police et à la gendarmerie maintenant d'utiliser pleinement ces drones dans des termes extrêmement larges qui sont extrêmement inquiétants. Il reste il reste une institution avant ça, c'est le Conseil constitutionnel. Il a été saisi sur la loi. C'est selon chacun les espoirs qu'on peut poster devant une institution qui n'est pas élue et qui est largement critiquable. On espère au moins que elle restreindra un peu les libertés de la police sur l'utilisation des drones.
Très bien. Et donc la lutte continue. On a encore espoir. Je voulais juste revenir justement sur cette lutte parce qu'il s'est passé quelque chose en fait dans la campagne Technopolis au moment de la loi sécurité globale. Il s'est passé quelque chose aussi pour nous à la Quadrature. On s'est retrouvés d'un coup en milieu de cette lutte-là, cette lutte citoyenne qui était très forte, très belle à voir à la fois. Et c'était une période très intense aussi pour nous. Et je pense que la campagne Technopolis a eu un rôle très important là-dessus, parce qu'on a pu, du coup, avec cette décentralisation, organiser peut-être un peu mieux la lutte et les manifestations anti-SG, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alouette ?
Moi, je dirais qu'on a surtout aussi permis d'alerter sur le fait que cette loi sécurité globale, c'était pas uniquement l'article 24, qu'il y avait plein d'autres choses derrière qui étaient dégueulasses, et qu'on a essayé de politiser et le mettre sur le devant de la scène que cette loi, elle avait plein d'implications et elle permettait en fait de mettre en place aussi un peu le livre blanc de la sécurité intérieure. Donc ça, c'est la feuille de route du ministère de l'Intérieur qui prévoit de faire dans les prochaines années, quels dispositifs ils veulent mettre en place, quelles nouvelles technologies ils envisagent pour la police et la gendarmerie, etc. Donc ça, la loi sécurité globale, c'était un premier pas dans le déploiement de ce livre blanc. Et du coup, ouais, c'était surtout permettre d'alerter sur tous les autres choses. Donc il y avait, comme Martin l'a dit, il y avait les drones, il y avait la vidéosurveillance dans les halls d'immeubles, il y avait le fait que ça étendait les caméras portatives sur les policiers et les gendarmes. Le fait que maintenant les vidéos, ces caméras-là pouvaient être diffusées en direct dans le centre de supervision urbaine, étaient accessibles aux policiers qui étaient derrière en live. Donc voilà, il y avait plein de dispositions dans cette loi qui étaient en dehors de l'article 24, qui n'est pas que cet article.
Oui, et je me souviens qu'en manifestation, c'était très important que nous en sortent un petit peu des analyses précises sur ces sujets-là. Je me souviens que ça servait un peu de socle pour beaucoup de gens, en fait, pour comprendre ce qui se passait, le fait qu'on ait suivi et qu'on ait documenté un peu tout ça.
C'est juste pour préciser pour les auditrices qui ne se souviendront pas, l'article 24 concernait le fait d'interdire le fait de filmer des policiers, qui était effectivement celui qui prenait toute la lumière.
Oui, parce que c'était très médiatisé, parce que ça concernait beaucoup les journalistes, justement. Donc, ils avaient peut-être une plus grande facilité à le mettre en avant dans les médias. Et on a parlé du livre blanc de la sécurité intérieure. Alouette, qu'est-ce que tu penses du lien de ce livre blanc avec les JO de Paris 2024 ?
Le livre blanc, donc c'est un livre qui sort tous les 5 ans ou enfin au bout de certaines années. Donc là, il a clairement été fait. C'est un peu la doctrine du ministère de l'Intérieur, sa feuille de route. Donc c'est aussi à voir dans la temporalité des Jeux Olympiques de 2024 et de la Coupe de rugby de 2023 qui aura lieu en France. Et donc du coup, tout ça, c'est aussi dans le but de renforcer les pouvoirs des forces de l'ordre et d'étendre aussi les potentialités d'utilisation des technologies à ce moment-là. Pour plusieurs raisons, pour faire aussi notamment de la France une vitrine sécuritaire pour permettre aux entreprises françaises ou pas que françaises de la sécurité, de montrer un peu le savoir-faire de la France en matière de sécurité, de surveillance. Donc le livre blanc, oui, il est replacé dans cette temporalité des Jeux Olympiques, où la loi sécurité globale aussi, c'est un premier pas dans une temporalité où il y aura beaucoup plus de... qui vise à renforcer en fait tous les pouvoirs de la police, etc., pour faire de la France cette vitrine-là.
Et on a beaucoup parlé d'expérimentation tout au long de cette émission. Martin, tu disais tester, etc. Et ce qu'on remarque, en fait, dans tous ces projets qu'on découvre un peu au fur et à mesure de nos analyses, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentation. Et c'est vraiment le terme même utilisé par les industriels. Et des fois, c'est même le terme utilisé pour se défendre et pour dire « mais ce n'est qu'une expérimentation ». Et j'ai l'impression, justement, que ces expérimentations vont avoir lieu encore plus pour et pendant les JO. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Martin ?
C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que même j'ai l'impression que nous, à Technopolis, on parle toujours d'expérimentation et de dispositifs expérimentaux, alors qu'en fait, c'est souvent des trucs qui, bon, évidemment, qui sont testés et qui restent, et puis en fait, qui surtout continuent à être testés et qui ont le nom d'expérimentation que le nom, quoi. C'est vrai que si je prends, par exemple, les particules de reconnaissance faciale, c'était une expérimentation, mais qui allait être installée physiquement à l'entrée des lycées, donc c'était pas tellement une expérimentation vu que ça demande une construction physique, quoi. Si je prends les capteurs de Saint-Etienne, même chose, on parlait d'expérimentation, mais c'était plutôt dans le long terme. Donc oui, t'as totalement raison que c'est présenté comme une expérimentation, on va dire un peu pour habituer à la population, quoi, et en se disant c'est un peu moins grave, vous voyez, on va tester pendant 2 mois. Si je prends un autre dispositif, par exemple, c'est le comptage des masques dans les métros parisiens, on dit on va le tester pendant 3 mois, comme si c'était un peu moins grave, en oubliant que, par exemple, si je prends le comptage des masques il y a un an, c'était totalement illégal. Donc en fait, oui, peut-être que ça n'a duré que 3 mois, et pendant 3 mois, il y a quelque chose d'illégal qui a été testé sur nous. Après, moi j'aime bien aussi le terme tester, Parce que souvent, ça permet de voir qui sont, enfin, qu'est-ce qu'on devient, nous, habitantes et habitants d'une ville. Bah, finalement, c'est ce, seul et ce sur quoi est testé le dispositif, quoi. Et donc, ça, je me rappelle de Caroline Posementier, qui était l'adjointe à la sécurité à la mairie de Marseille, hein, qui voulait faire de Marseille un laboratoire d'expérimentation des dispositifs de surveillance, et qui, ce qui est atroce, parce que ça faisait de nous des rats de laboratoire, mais elle l'affichait et elle en était plutôt fière, quoi.
Donc c'est important un petit peu d'insister là-dessus et de faire comprendre que nous ne sommes pas des rats de laboratoire, qu'il y a
ouais,
peut-être...
Ce serait bien,
oui. Et du coup, que nous ne sommes pas là pour améliorer les algorithmes et le produit de ces boîtes de sécurité privées, que ce n'est pas sur notre dos ou sur nos libertés fondamentales qu'il faut que ces choses-là se fassent.
D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que enfin, je trouve qu'en déroulant le fil, on trouve plein de trucs. Par exemple, souvent, tous ces dispositifs de Technopolis, c'est dans les termes expérimentaux. Donc, finalement, ça va être un peu prêté gratuitement à une collectivité. La collectivité, du coup, elle ne va pas avoir à payer pour ça. Donc, il va y avoir moins d'obligations de publication, de publier, de parler du sujet parce que la collectivité n'a pas déboursé un euro hein, pour ça. Et en même temps, derrière, en fait, l'entreprise va venir tester ses algorithmes bah, pour les améliorer. Et si je prends, par exemple, l'entreprise chinoise Huawei à Valenciennes, si je prends IBM à Toulouse, qui font tous de la vidéosurveillance automatisée, si je prends une nouvelle entreprise de sécurité qui s'appelle 22, par exemple, qui déploie dans la région à Île-de-France, à Suresnes et à Saint-Denis, désolé Étienne, et ben en fait, ils l'affichent ostensiblement de dire « bon, bah, nous, on vous donne gratuitement ces algorithmes, hein, ces logiciels, mais derrière, nous, ça va nous permettre de les entraîner. » Et donc derrière, bah, finalement, de les entraîner et puis de les mieux les revendre sur le marché dont parlait Alouette tout à l'heure.
En fait, c'est la technique très connue du dealer de drogue que nous connaissons bien à l'April pour l'avoir vécu pendant longtemps avec Microsoft et les autres GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et qui consiste en fait à donner une première dose gratuite, un premier contrat qui coûte pas très cher, et ensuite à faire une accoutumance qui fait qu'après on va en vouloir plus, etc., etc.
Il nous reste 5 minutes, voilà, pour pas presser
Merci
les temps, voilà, qu'on finisse tranquillement.
Ok, mais du coup, on va profiter de ces 5 dernières minutes, Alouette et Martin, pour voir un peu qu'est-ce qui est prévu pour la suite de la campagne. Comment est-ce qu'on va contrer la Technopolis ?
Alouette, si t'as des spoilers pour le futur.
Qu'est-ce qu'on... Bah, plein de choses. là, dans la suite de la campagne, du coup, on va aussi se concentrer sur ces Jeux Olympiques-là et tout ce que ça implique par la suite pour nos libertés. On va aussi voir un peu, là il y a quelque chose qui est en train de déployer, notamment dans les supermarchés, de la vidéosurveillance automatisée pour en gros voir qui vole dans les supermarchés. Donc ça c'est un peu une nouvelle chose sur laquelle on va essayer de se concentrer. Et ensuite, bah, y a quelque chose qu'on a remarqué il n'y a pas très très longtemps aussi, donc à Marseille et à Paris notamment pour l'instant, c'est le fait que maintenant il y a des contrôles de police, des contrôles d'identité, où les policiers en fait prennent en photo la personne et ensuite envoient derrière au central pour voir si la personne a été fichée dans le TAJ, donc le fichier des traitements des antécédents judiciaires. Donc ça c'est un fichier qui autorise la reconnaissance faciale. Donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de contrôles de police où il y a cet outil-là qui est utilisé en fait de directement voir si la personne est fichée. Ça permet aussi de vérifier son identité en fait plus vite et de voir si elle ment pas. Donc il y a tous ces dispositifs-là. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses, toi, de ton côté,
Marc. Franchement, non, c'est exactement ça. Moi, j'avoue que le sujet sur la VSA dans les supermarchés est assez inquiétant parce qu'on se rend compte que pendant qu'on essayait de documenter la VSA sur l'espace public, en fait, énormément de grandes surfaces, type, pour pas les citer, Monoprix, en fait, utilisent des algos, eux, de détection, quelquefois biométrique, hein, pour voir s'il y a des vols ou pas. Et on a pas mal de remontées, d'ailleurs n'hésitez pas si vous l'avez eu, de gens qui se font arrêter par les vigiles parce qu'ils ont remis un moment le téléphone dans leur poche et l'algo a cru qu'en fait ils étaient en train de mettre un produit dans leur sac. Et puis sur ce sujet de la reconnaissance faciale utilisé de plus en plus par la police, si je ne me trompe pas, c'était un de nos membres aussi qui s'est à Marseille où la police lui a parlé de machine de reconnaissance faciale en disant que en fait il avait plus ses papiers et du coup il voulait faire ce dispositif de reconnaissance faciale avec son portable
dans la rue. Il lui a dit amène la machine à RECO.
Et c'est quelque chose qui est assez incroyable, parce que bon, je sais hein, qu'on est toujours dans le fantasme de 1984, mais maintenant on se rend compte qu'on est vraiment là, vraiment largement dépassé, où la police fait dans l'espace public, sur des manifestants et des manifestantes, bah, de la reconnaissance faciale avec leur téléphone.
Merci beaucoup Martin, merci Alouette. De mon côté, je vous invite vraiment à venir voir le site technopolis.fr, à vous inscrire sur le forum et échanger avec nous là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, Étienne, non, si on a le temps.
Bon, écoute, plutôt des Marodile qui faisait effectivement.
Alors,
bon,
venez
résumé
sur le forum.
Voilà, mais disait qu'effectivement, non seulement on a les cobayes qui vont être utilisés pour améliorer des algorithmes et qui seront ensuite payés avec nos impôts, nous dit-elle, mais bon, vous nous proposez justement des manières de nous organiser pour résister, pour lutter. On n'est pas non plus démunis encore collectivement. On peut agir. Et donc, je vous recommande effectivement vivement d'aller sur le site Technopolis. Il y a fait un très beau visuel. Récemment, moi, je suis allé sur le forum. Je cherchais une information et effectivement, il y a énormément de ressources.
Cool. Ok. Voilà. Tu me disais non, c'était des films.
Par exemple, non, mais c'est vrai qu'on nous entend souvent parce que tu parlais de la problème de politisation du sujet, des gens qui disent oui, mais voilà, la sécurité, le vol à la tire, etc., etc. Il y a beaucoup de références pour nous armer aussi, parce que ben savoir, c'est être armé aussi pour pouvoir expliquer et déconstruire et expliquer que non, c'est pas la sécurité. Qu'on peut aussi réfléchir autrement comment on vit sereinement dans nos espaces de vie et se réapproprier aussi nos espaces de vie en tant que citoyen citoyenne, ça me paraît important. Et les caméras de surveillance nous aliènent, je pense, plus au contraire. En tout cas, un grand merci Baïda d'avoir animé cet échange, que j'ai trouvé passionnant.
Merci à vous, ouais. Merci voilà. À l'April.
Et merci pour Nexi Technopolis, merci Alouette aussi à distance.
Merci à la radio.
Et pardon. Je vous souhaite une très bonne. on discute. Donc, une très bonne fin de journée et à bientôt.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Arcane par Cloud Kicker. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix du possible.
Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Nous venons d'écouter Arcane par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouverez la référence sur le site de l'April.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Je suis Étienne Gonu de l'April et vous écoutez toujours Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. L'April est soucieuse de permettre la diversité des expressions et j'ai donc le plaisir de donner la parole à Luc qui, me semble-t-il, tenait à nous dire que lui, il aime ça la Technopolis. Luc ?
Oui, oui, alors moi j'ai appris que des gens sont invités dans cette émission pour se plaindre de la Technopolis. Alors c'est pour ça que je suis pas venu, parce que moi je veux pas parler à des gens qui sont contre le progrès. C'est pas une nouveauté en fait, hein. On a des caméras de vidéoprotection depuis des décennies et ça marche. Depuis qu'il y a des caméras partout, je n'ai jamais été agressé. Bon, ok, je n'avais jamais été agressé avant non plus, mais voilà, le fait c'est que je suis toujours vivant. Puis la vidéosurveillance aujourd'hui, c'est pas que les caméras accrochées aux lampadaires, avec les téléphones portables, les dashcams et les caméras de sécurité privées qui ont pullulé partout, la vidéosurveillance a pris une toute autre ampleur. Les événements autrefois rapportés par de simples allégations sont désormais enregistrés. Et que nous révèle cette vidéosurveillance de tous par chacun ? Des extraterrestres, des miracles, des phénomènes surnaturels ? Non, non, des chats qui font des trucs rigolos, des comportements routiers improbables et pas mal de violences policières. Or, en 2012, un policier britannique s'était traqué lui-même pendant plus d'une heure. Ses collègues derrière les écrans avaient repéré un mec louche dans le quartier et lui avaient donné des indications sur ses déplacements. Bien entendu, le mec louche était le policier lui-même. Quand on considère la violence policière révélée par la vidéosurveillance aujourd'hui, on comprend que cette auto-traque était finalement visionnaire. Puis il y a également Christian Estrosi, qui ne s'étouffe pas avec sa décence. La notion lui est tellement étrangère que quand il entend ce mot, décence, cet ancien champion de moto croit toujours qu'on parle de carburant. Au lendemain des attentats du Bataclan, il s'était vanté que ça ne serait pas arrivé à Nice grâce à son réseau de vidéoprotection. Et il a eu raison. Il n'y a eu aucun attentat du Bataclan à Nice. Mais bon, certains rapports récents disent que la vidéosurveillance ne marche pas, notamment parce que les policiers ne sont pas formés et trouvent que ça fait trop de boulot. Pas étonnant quand on sait que leur niveau baisse drastiquement. Surpoids, illettrisme, incapacité à conserver son calme et parfois même casier judiciaire. Donc heureusement que la Technopolis est là pour compenser. Grâce aux IA et aux algorithmes, on pourra continuer à recruter des policiers inaptes délivrés par notre système scolaire en déroute. Le monde est quand même bien fait. Avec les technologies pour analyser les trajectoires suspectes et les bruits hors normes dans les espaces publics, la police n'aura plus qu'à appuyer sur la détente du LDB. Quand ils vont revenir, les touristes vont prendre cher. Mais bon, visiter la France, ça vaut le coup d'en veiller. On peut faire confiance aux IA pour appliquer des critères subtils et mesurés. Il faut prendre exemple sur Facebook, qui a censuré la page de la ville de Beach récemment. Non seulement c'est offensant comme nom, mais en plus c'est une intolérable appropriation culturelle. Comme si ça suffisait pas que les ch'tis nomment leurs enfants Kelly ou Dylan, maintenant même leurs villes ont des noms américains. Mais bon, les esprits chagrins qui critiquent la Technopolis s'en prennent aussi à la notion de Smart City et à l'utilisation de la Big Data. Ils regrettent notamment que des entreprises soient à la manœuvre. C'est vrai qu'en détenant les moyens de mesure et d'action, elles accèdent à des missions régaliennes. Franchement, il n'y a pas à en faire tout un fromage, nos lois sont déjà largement rédigées par des lobbyistes, et ça marche très bien. Puis bon voilà, vivre en société, c'est vivre dans des relations de pouvoir. Michel Foucault le disait dans Surveiller et punir, la discipline, au travers d'examens, de critères d'évaluation standardisés, nous a rendus comparables et normés. Nous avons été élevés et conditionnés à être des stats depuis bien longtemps. Nous sommes à la fois l'objet et l'instrument du pouvoir disciplinaire, dont le Big Data et les modèles multi-agents de la Smart City ne sont qu'un nouvel avatar, plus moderne et plus performant. La surveillance disciplinaire, c'est notre tradition occidentale moderne. Pourquoi vouloir s'y soustraire ? Et Foucault l'avait bien compris, puisqu'il est aujourd'hui accusé d'avoir profité de son séjour en Tunisie, loin du regard du panopticon français, pour se taper des enfants. Alors moi, je dis que mettre en cause la Technopolis, c'est un truc de pédophile, rien de moins.
Bah écoute, merci hein, Luc d'amener de la nuance à ce débat important.
Et puis, oui, la nuance c'est mon truc, oui.
Tout à fait. Je te dis au mois prochain.
Oui, au mois prochain.
Salut Luc.
Salut.
Alors, bah, nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, Laurent et Laurette Costi nous ont parlé du protocole DNS, un domain name system, qui est structurant pour Internet, en ouverture de l'émission. Alors nous avons malheureusement appris le récent décès de Daniel Kaminsky à l'âge de 42 ans. Alors Dan Kaminsky était un chercheur en sécurité connu notamment pour sa découverte d'une faille, d'une faiblesse fondamentale dans le protocole DNS. Et il est décédé vendredi à son domicile de San Francisco. Nos pensées vont bien sûr à ses proches. Jeudi 29 avril, donc dans deux jours, n'hésitez pas à participer à la réunion du groupe Sensibilisation de l'April. Rendez-vous à 17h45. Une réunion ouverte à toutes et à tous. Il vous suffit d'un ordinateur, d'un micro et d'un navigateur web pour participer. À l'ordre du jour, le projet La Boussole Libre. Voilà, toutes les infos sur le site de l'April. On vous rappelle d'ailleurs aussi que l'April, que le t-shirt April, logiciel libre donne de la voix, hein, spécial émission libre à vous, est toujours disponible sur le site enventelibre.org. Et puis vous pourrez trouver, comme d'habitude, pardon, tous les événements liés au logiciel libre près de chez vous sur l'agenda du libre.org. Donc. Je rappelle également que l'émission et plus globalement la radio est contributive. N'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Vous pouvez contribuer à l'émission. Retrouvez sur les sites april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter et de contribuer. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, bien sûr, Laurent et Laurette, Edda, Martin, Alouette, ainsi que Luc. Merci à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, alors Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudon, Languin, Sylvain Kunzmann, qui sont tous bénévoles à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Et enfin, un très grand et chaleureux merci à Patrick, aux manettes de la régie aujourd'hui, qui réalisait sa dernière régie pour Libre à vous. C'est un plaisir de partager cette aventure avec toi et au plaisir de se recroiser dans d'autres actions au sein de l'April. Voilà, bravo Patrick. Mais parce que c'est pas évident, la régie mine de rien, surtout en direct, et donc voilà, tu as su nous aider, nous épauler dans cette aventure. Alors vous retrouverez sur le site web april.org toutes les références, comme je vous l'ai dit, hein, toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours hein, pour indiquer ce qui vous a plu, des pistes d'amélioration, des propositions, ainsi de suite. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 4 mai 2021 à 15h30, et notre sujet principal portera sur le difficile exercice de la modération. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, donc on se retrouve en direct mardi 4 mai, et d'ici là, que la force soit avec vous.